Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines de croissance, le podcast de Crélan pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les secrets d'un bon plan financier et nous avons le plaisir d'avoir deux experts pour le prix d'un. Bruno, expert comptable, et Johan, agent bancaire Crélan. Bruno, tout simplement, c'est quoi un plan financier et en quoi est-ce important ?
C'est important, il faut prendre en compte qu'un plan financier n'est pas une prédiction, c'est plutôt un outil de pilotage afin de voir l'avenir de la société, de la comparer, de voir les évolutions du business et pouvoir s'adapter à tout mouvement qu'il y a dans le cours de l'année, dans le cours de la vie d'une entreprise.
Et si on veut commencer par les bases ? Un plan financier est souvent perçu comme un défi, quelque chose de pas forcément naturel pour tout entrepreneur, même s'il a déjà initié son entreprise depuis un certain temps, mais il veut changer de dimension, développer de la croissance. Comment on arrive à dissiper cette association entre plan financier et la crainte de se projeter, de piloter ?
En fait, la crainte que beaucoup de jeunes entrepreneurs ont, bah, ils arrivent avec une idée qui est souvent extraordinaire. Comment la mettre en place, avoir des idées qui sont réalistes, parce que bien souvent, on pense qu'on va se développer sur un marché et qu'on va exploser, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il faut vraiment dissiper, et c'est vraiment à ça que sert un plan financier, de pouvoir analyser le marché, analyser les investissements, analyser le besoin financier, qui est surtout aussi important, et voir comment on peut évoluer en engageant du personnel ou enfin, voilà, un tas de choses qui sont nécessaires à la vie d'une entreprise.
C'est lié à une peur des chiffres, mais on doit objectiver une situation au travers de ce plan financier. Cette peur, elle fait aussi peut-être, Johan, elle fait peut-être aussi de l'ombre à certaines lacunes. Est-ce qu'il y a des lacunes techniques ? Le fait que ça ne soit pas dans voilà, la besace de chaque entrepreneur, même s'il est déjà en pleine croissance, est-ce qu'il y a une technicité qui peut refroidir certains ou brouiller un petit peu les cartes ?
Mais effectivement, on rencontre régulièrement des entrepreneurs qui sont très bons techniquement dans leur métier, mais qui, en tant que gestionnaire, ont vraiment le besoin de pouvoir s'appuyer sur le comptable. Donc, le plan financier va être établi avec le comptable, mais également avec, évidemment, les connaissances techniques de l'entrepreneur. L'entrepreneur, selon nous, doit avoir les aptitudes de gestion aussi, en plus des connaissances techniques. L'un ne va pas sans l'autre. Et dans ce cas-ci, le fait de pouvoir se projeter, de pouvoir simuler la croissance de l'activité va permettre de pouvoir aussi introduire une demande de crédit et d'avoir un élément qui amène en tout cas un plus dans l'introduction de la demande.
On verra ça après dans une dimension de financement et financement de la croissance, etc. Pour revenir aussi dans ces appréhensions hein, qui peuvent toucher, c'est un grand mot, plan financier, pour parfois des petites entreprises. Et il y a aussi ce sentiment persistant de limiter la liberté entrepreneuriale. On se sent un peu bloqué par ce plan, par ces chiffres. Comment vous arrivez à essayer de dégoupiller la situation ? Bruno, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans l'activité quotidienne ?
Enfin, de suite, il faut vraiment penser qu'un plan financier n'est pas juste le fait de faire un plan sur l'avenir et de le déposer chez le notaire, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et puis souvent, l'entrepreneur oublie ce plan financier, alors que ça doit être plutôt vraiment considéré comme un budget et un suivi mensuel pour pouvoir rectifier éventuellement les erreurs qu'on a faites dans la création d'un plan financier, parce qu'on ne connaît pas tout, quoi.
Oui, et j'allais dire alors, pour passer progressivement de la théorie des généralités à des précisions peut-être plus concrètes, on attend des entrepreneuses et d'entrepreneurs qui maîtrisent un petit peu tout. Hein. Vous citiez la technicité pour leur secteur, mais il faudrait aussi être bon gestionnaire, bon homme ou femme des chiffres. Quels éléments sont indispensables pour amener une certaine vision, pour amener une certaine aisance sur l'analyse financière, Johan ?
Je pense que le plan doit être établi comme on le disait tout à l'heure, avec l'expert comptable. Mais avant toute chose, c'est une nécessité pour l'entrepreneur de pouvoir se projeter dans un concept, dans un projet, pour vérifier si les montants qui sont avancés, ne serait-ce même qu'au niveau de sa rémunération, c'est quelque chose sur lequel il se voit aussi dans le futur. Si maintenant, dès le départ, on se rend compte que la viabilité de projet ne permettra pas la satisfaction entière de l'entrepreneur, clairement, on va déjà avoir un problème d'entrée de jeu. Ça permet d'ouvrir les yeux peut-être sur certaines réalités futures et c'est primordial. Donc, le plan n'est pas uniquement comme disait Bruno, pour le notaire ou pour le banquier, mais avant tout pour l'entrepreneur, pour qu'il puisse vraiment se rendre compte de la manière dont ça va se passer a posteriori.
C'est un grand mot même pour des petites structures, c'est un outil stratégique, il faut se saisir de cette nature, de cet outil. C'est comme ça qu'il faut le considérer, Bruno ?
Il faut le considérer comme un accompagnement. Il faut vraiment prendre ça au sérieux et voilà, vraiment voir ce qu'on fait. C'est les premiers mois qui sont importants dans, dans la vie d'une entreprise. On dit qu'il faut 3 ans pour la développer. Enfin, ça, c'est les chiffres statistiques. Mais je pense que la première année est vraiment super importante. Vraiment voir ce qu'on a prévu et vers quoi on va et qu'est-ce qu'il a lieu de rectifier s'il faut rectifier quelque chose.
Et au niveau des différences, donc une entreprise, on ne parle pas ici aux entreprises en démarrage, on parle à celles et ceux qui portent des sociétés qui veulent ouvrir un nouveau marché, qui veulent développer peut-être les ressources humaines, qui ont des objectifs stratégiques, qui ont cette vision de croissance, de développement. C'est quoi la différence au niveau d'un plan financier, en essayant de généraliser, entre un plan financier pour une start-up et alors une entreprise de croissance? À quels éléments il y a vraiment une distinction à faire et un changement de regard à apporter?
Mais lorsqu'une entreprise développe un projet, un nouveau projet dans, dans son objet social ou dans sa vision de voir l'évolution de sa boîte, de sa société, pardon,
c'est un mot courant.
L'avantage de faire un plan financier, parce que c'est pas que pour la création, c'est vraiment pour le développement de la société, c'est de voir déjà ce qui était les ressources qu'il y a déjà derrière, surtout les ressources financières. Et au niveau d'une banque, ça va être super important de voir qu'est-ce qu'elle peut amener comme fonds propres, s'il faut des fonds propres, s'il faut développer un financement, un crédit d'investissement. Ce sont vraiment des choses qui sont très importantes. Voir le marché sur le côté aussi. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que la viabilité du projet est vraiment dans un avenir de cette société? C'est vraiment quelque chose à prendre en compte vraiment pour un développement durable de la société.
Johan, est-ce que vous avez un exemple de cette transformation au travers d'un plan récent, un élément où vous vous êtes dit, oui, c'est un cas d'école un petit peu dans la bonne mise en place ou le bon suivi d'un plan financier?
On a souvent des sociétés qui sont en croissance et ce qui se passe, c'est que des croissances découlent souvent d'investissements qui viennent d'être réalisés. Alors, quand on prend un compte de résultat, donc le bilan, on va dire, d'une société où on voit la rentabilité, si on continue la croissance, on a évidemment besoin de nouveaux investissements et la situation qui découle des derniers investissements ne permet peut-être pas encore de projeter les anciens.
Ça, ouais.
Donc, le fait de pouvoir se baser sur un plan va nous permettre déjà se concentrer sur ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, mais surtout de voir la rentabilité qui pourrait être dégagée grâce aux investissements futurs. En tant que banquier, normalement, on regarde toujours les 3 dernières années d'activité. Ce qui se passe, c'est que souvent, on voit une croissance importante d'année en année et c'est difficile, du point de vue d'analyse, d'uniquement se baser sur la dernière. Donc, le fait d'avoir un plan qui appuie la stabilité des revenus futurs et qui permet de montrer la croissance qui va découler des investissements est un net plus au niveau d'une demande de crédit.
Et alors, je ne sais pas si ça vous vient comme ça spontanément à l'esprit, est-ce qu'il y aurait des pièges à éviter quand on essaye de concrétiser, de matérialiser, de porter le plan financier comme on l'entend ici, dans les règles de l'art? Est-ce qu'il y a des grands terrains glissants à éviter?
De notre point de vue, souvent quand on nous présente des plans, on nous dit toujours qu'il est très pessimiste. Je pense que 95% des fois, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, c'est bien d'être pessimiste, il ne faut pas non plus trop l'être. Il faut impérativement que le plan puisse permettre quand même une capacité de remboursement. Des fois, on est vraiment très limite. La banque apprécie quand même pouvoir avoir une certaine marge de manœuvre par rapport au projet. Maintenant, évidemment, il ne faut pas tomber dans l'inverse, à savoir être trop positif. Je peux prendre l'exemple d'un restaurant qui pense qu'il va être complètement rempli autant au service de midi et autant le soir, peut-être même 7 jours sur 7. Non, clairement, là, il y a matière à discussion. Mais sinon, je pense qu'à juste milieu, il faut rester prudent. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus être trop pessimiste et certainement pas trop optimiste.
C'est des ingrédients pour un scénario catastrophe, d'être ou trop minimaliste quelque part, ou pessimiste, ou être surestimé d'un point de vue de ses prévisions, de ses possibilités. Vous avez des exemples de scénarios catastrophes qui seraient liés à ce mauvais emmanchement d'un plan financier?
Je pense que, justement, le plan financier va servir, en fait, à vraiment essayer de voir le projet, est-ce qu'il est faisable ou pas, comme disait Joël. Si on estime qu'on a 20 tables et qu'on les remplit, ce ne sera jamais possible. Donc, le plan financier va vraiment servir à dire on ne va pas mettre 20 tables, on va mettre 10 tables, et tant 10 tables, c'est faisable. Si on aime 20, tant mieux. Mais c'est vraiment, voilà, il y a plein de choses comme ça dans tous les domaines, et c'est vraiment de se dire à quelqu'un qui a un magasin de vélo dont j'ai eu dernièrement, il veut ouvrir un deuxième magasin, il vend 100 vélos d'un côté, est-ce qu'il va vendre les 100 vélos de l'autre côté ? C'est absolument pas, on ne peut pas se baser sur le même. Il y a la région aussi, la marque.
C'est multifactoriel, oui.
Ouais, tout à fait. Et donc, tout ça, ce sont vraiment des points à prendre en question. Le passage, c'est vraiment dire, voilà, combien de voitures passent. C'est vraiment des choses à penser sur lesquelles on ne pense pas. Et puis, il y a surtout le gros piège, je pense que c'est au niveau du personnel, quand on s'agrandit. Est-ce qu'on va avoir le personnel ? Est-ce que le personnel va rester ? C'est vraiment le nerf de la guerre. Comment on va faire si on perd une ou deux personnes ? Il va falloir, en fait, pour le chef d'entreprise, se dédoubler, ce qui devient assez difficile et compliqué pour lui, quoi.
Et comment on fait alors pour ancrer dans le réel ? Comment on voit, avec vos regards d'experts, un plan financier, il est trop beau pour être vrai ? À quels endroits on va pouvoir se dire que c'est irréaliste ? Et alors, question subsidiaire, et c'est peut-être la plus complexe, c'est comment on va amener l'entrepreneur ou l'entrepreneuse à revenir un petit peu plus sur terre et d'être freiner peut-être quelquefois un tout petit peu les ambitions pour essayer de pérenniser ?
Je pense que c'est l'expert qui va vraiment le remettre sur le droit chemin. Comment on développe un plan financier ? Ce sont des questions qui sont posées en fait aux jeunes chefs d'entreprise ou à l'entrepreneur déjà qui veut développer un autre projet. C'est-à-dire un tas de questions financières aussi, mais un tas de questions derrière sur son projet, vers où il va, est-ce qu'il a fait une analyse de marché, est-ce qu'il n'a pas fait une analyse de marché, est-ce qu'il a assez de fonds propres, est-ce que, voilà, combien de capital, c'est obligatoire de le décider sur les tests de liquidité. Mais c'est quelque chose vraiment super important, et je pense que c'est à l'expert. Souvent aussi, la banque dit, moi, je ne peux pas financer ça parce qu'il n'y a pas assez de fonds propres. Ce sont vraiment des choses, je pense que dans un financement aussi d'un projet, la banque va prendre, et Jean pourra me le dire, le confirmer, c'est qu'il y a tout l'aspect aussi clientèle derrière qui est là déjà depuis des années. Est-ce qu'on a confiance à la personne ? Est-ce que, c'est pas mal de choses qui viennent en obligation. Ouais. De pousser l'entrepreneur à aller voir tout ça.
Quelque chose à ajouter ?
Oui, tout à fait. Je rejoins Bruno. Ce qui est, de notre point de vue, très important, c'est aussi de ressentir que l'entrepreneur comprend le plan. Si le plan est établi sur base de l'expert comptable parce que lui a jugé qu'on avait possibilité de réaliser tel montant de chiffre d'affaires, ça ne va pas forcément faire notre affaire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'entrepreneur puisse comprendre ce qui a été fait, à contribuer évidemment à l'établissement du plan et surtout qu'il soit réaliste. Et je pense que, comme le dit Bruno, l'expert comptable est quand même la meilleure personne pour pouvoir se faire rendre compte, en tout cas à l'entrepreneur, que ce qu'il prévoit de faire est un peu trop ambitieux. Et donc, la plupart du temps, heureusement, quand nous avons des entrepreneurs qui nous présentent des plans, déjà de un, ils savent ce qui est repris dans le plan, donc ils ne sont pas totalement ignorants par rapport aux chiffres qui ont été implémentés dans le plan. Et surtout, ils savent nous expliquer comment ils souhaitent atteindre ce montant de chiffre d'affaires, quels sont les revenus qui vont pouvoir découler de l'investissement, que ce soit d'une machine, d'un outillage, d'une ligne de production ou autre. Donc ça, c'est un élément essentiel parce que nous, c'est selon cette crédibilité qui pourra amener au projet qu'on pourra vraiment défendre le dossier aussi au mieux par la suite.
C'est l'un des ingrédients principaux d'un plan solide, d'un plan bien bétonné. Alors, c'est cette compréhension, pas que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, face à vous, à un certain moment, on dit « Ah, je passe le flambeau au comptable, c'est lui qui a tout. » Il faut qu'il y ait cette dynamique de compréhension et d'alors de complémentarité dans l'approche. C'est ce qui vient un petit peu bétonner votre plan financier. Est-ce qu'il y a d'autres approches de ce style, d'autres dynamiques qui permettent d'avoir un plan financier solide ?
Le plan financier, comme je le disais, en fait partie intégrale. Donc, certain que si on a un plan financier, c'est quand même sur ça qu'on va se baser pour pouvoir faire une analyse et pouvoir justifier que la société a la capacité financière de pouvoir réaliser l'investissement. Mais surtout, il faut qu'on puisse se sentir en confiance dans le cadre de la demande. Le crédit, ça vient quand même toujours de credere en latin. C'est croire dans le projet. Si nous, on croit dans nos clients, si on comprend ce qu'ils nous présentent et qu'on a confiance au projet, on sera évidemment beaucoup plus armé pour pouvoir défendre le dossier aussi du point de vue du service crédit.
Et d'un point de vue au-delà de la confiance, si on veut revenir dans la matérialité des chiffres, ce serait quoi le premier chiffre à regarder ou à prendre conscience en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse? Qu'est-ce qui met un petit peu le pied à l'étrier pour un plan financier? Est-ce qu'il y a des chiffres inévitables à prendre en considération?
Moi, je pense que la première chose, c'est qu'est-ce que l'entrepreneur va gagner? Parce que faire un plan financier, avoir un bel EBITDA, etc., c'est top. Mais qu'est-ce qu'il va gagner? Parce que personne ne travaille pour rien, sauf si c'est vraiment une passion qu'on n'en a pas besoin. Mais c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qu'il va gagner? Est-ce que c'est suffisant pour lui de vivre? Parce qu'aussi, Jean-Louis Manquer va voir aussi si la capacité de remboursement est importante. Et je voulais revenir sur une chose qui me paraissait importante, sur les risques. Je pense qu'il faut parler aussi d'un point de vue juridique. Mm-hmm. La base de la création d'une société, il y a quand même les statuts. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs aussi laissent ça un peu au hasard. S'ils s'associent, ils n'ont pas vraiment vérifié les statuts, ils ont été chez notaire, on prend des statuts. C'est quelque chose qui est très important. Est-ce qu'on fait un pacte d'actionnaires? Est-ce qu'il y a des choses qui sont...
Est-ce que ça va conditionner et limiter alors les perspectives de croissance?
C'est vraiment quelque chose, c'est une base, voilà, une base juridique. Ok, il y a les chiffres, mais il y a quand même tout ce qui est derrière, prévoir l'avenir aussi de la société. Ouais. Si on est deux associés, si on a un qui s'en va, quelles sont les clauses de départ? Ce sont des choses que je pense qui sont très importantes, en plus des chiffres.
Ouais. Prévenir pour ne pas se poser ce genre de questions au moment où le problème émerge. Très bien. Et alors, comment ce plan... Maintenant, on va passer de l'autre côté. Comment il aide à prendre des décisions? Comment, une fois qu'on a bien fait, on a suivi les bonnes pratiques, on a établi le bon plan, il est crédible, il est sérieux, comment il peut véritablement... Vous aviez cité le mot, hein, Bruno, cet outil de pilotage. Mmh. Comment il devient un outil de pilotage pour prendre les bonnes décisions?
Mais je pense qu'on a créé la base d'un plan financier et il faut le suivre tous les mois. Alors, tous les jours, c'est pratiquement impossible dans la vie d'une entreprise, mais tous les mois, et voir les dérapages ou les bons côtés des choses qu'on a fait. Si on a décidé que les frais de téléphone étaient à 200 euros, par exemple, qu'on arrive à 1000 euros, bah, il faut se poser la question. Alors, bien souvent, j'ai mis le téléphone de ma fille ou de mon épouse, elle est partie aux États-Unis, elle a consommé un maximum. C'est explicable. Mais on peut avoir des dérapages sur des achats, sur trop d'achats, sur trop de stocks, parce que on a dit, le fournisseur a dit, voilà, 10 pièces, vous avez 10%, 20 pièces, vous avez 20%. D'ailleurs, qu'on peut livrer une pièce en 24 heures. Mmh. Donc, on a du stock qui est beaucoup trop important. C'est des choses qu'il faut vraiment, afin de pouvoir se réadapter directement, assez rapidement. Et c'est ça qui est important pour avoir un suivi impeccable dans la société.
Et dans ce monitoring, alors, on regarde quels indicateurs clés chaque mois, qu'est-ce qu'on doit, les inévitables à surveiller?
Je pense que c'est plus du point de vue du comptable qu'il faut répondre, mais nous, ce que je peux me permettre de dire au niveau du plan, c'est clairement qu'on n'attend pas un an avant de faire le point. Malheureusement, il arrive de temps en temps qu'on se rend compte après 18 mois, parce que le temps que les bilans soient publiés, etc., on n'a pas forcément de situation intermédiaire, que l'activité est à perte pendant plusieurs mois. Et donc ça, tout le travail de l'expert comptable, justement de pouvoir faire le point régulièrement avec le client pour voir s'il est dans le bon. Parce que malheureusement, après 18 mois d'activité à perte, on a à ce moment-là peut-être des problèmes de trésorerie et c'est sans doute pas le meilleur moment pour venir retrouver le banquier non plus.
Et cet effet de rattrapage ou les réajustements, vous évoquiez des situations circonstanciées avec le départ à l'étranger ou des situations beaucoup plus peut-être systématiques ou structurelles. Ces réajustements, quelles sont les possibilités? Il y a quelle liberté de corriger le tir pour pas attendre de se rendre compte que ça faisait 18 mois qu'on était dans le rouge, si vous permettez l'expression?
Je dis 18 mois, on va pas attendre 18 mois pour être dans le rouge. On va vraiment, comme je disais tantôt, voir ça mois par mois et aller rectifier et voir pourquoi on a fait une erreur. C'est vraiment ça qui est important. Il y a un tas de choses à regarder. On regarde la marge brute, vous parliez de demande d'arrêt, on regarde l'EBITDA. Tout ça, c'est bien, ce sont des KPI qui sont mis. Mais ce qu'il faut, c'est que on puisse, en fait, avoir une vision, on peut même la faire journalière dans certains cas au niveau du chiffre, voilà. Mais que l'entrepreneur ait un tableau de bord qui soit devant lui tous les jours et quand il ouvre en fait son ordinateur ou sa tablette, qu'il voie exactement ce qu'il a besoin de voir. Et c'est à l'expert comptable à lui dire derrière, attention, dans ta situation, tu dois faire attention à ça. On peut avoir un pourcentage sur les chiffres d'affaires personnels en fonction vraiment du projet de l'entrepreneur, quoi.
Ouais. Donc, ne pas attendre que des indicateurs de performance s'affolent, de voir un petit peu comment ils évoluent et de, encore une fois, objectiver la situation. On va passer dans la dimension plutôt financement pour encore avancer avec cet outil du plan financier. Que regarde un banquier en premier dans ce plan? Où la loupe s'arrête-t-elle vraiment? Est-ce qu'il y a un endroit par lequel vous commencez systématiquement?
Évidemment, les capitaux propres de la société. Donc, il faut savoir que du point de vue de la banque, il y a tout un tas de ratios qui doivent être respectés, ou en tout cas être dans une certaine mesure. Donc ça, ce sera évidemment le premier point. On verra ce qu'apporte l'entrepreneur ou ce qu'il a déjà pu constituer par le passé.
Et d'un point de vue entrepreneur et entrepreneuse, on pense à nos auditrices et auditeurs, comment on structure pour convaincre et le banquier ou des investisseurs exigeants? Comment on arrive à, quelque part, essayer de faire matcher la réalité des activités avec ce plan financier, ces chiffres qu'on doit soumettre?
Pouvoir le faire matcher, mais comme je disais, il faut qu'on ait une capacité de remboursement quoi qu'il en soit. Maintenant, au niveau des fonds propres, ou peut-être même au niveau de l'effort propre pour un projet en particulier, ça, on peut aussi se voir en amont, avant la réalisation du plan, pour savoir de quelle manière la banque peut accepter un certain type de financement, que ce soit IMO ou matériel. Donc ça, on peut évidemment donner les guidelines de la banque pour permettre d'y voir un peu plus clair de ce point de vue-là, que ce soit en consultation avec le comptable ou avec le client en direct.
Alors, c'est une question que je vous pose à tous les deux, hein, évidemment, mais comment on présente des risques parce qu'il y a des chiffres voilà, qui racontent une histoire et qui racontent des perspectives qui sont peut-être moins joyeuses que les ambitions des entrepreneurs. Comment on arrive à présenter ces risques sans décourager ou le banquier ou des investes comment, dans ces chiffres, sans les trahir, sans les maquiller, comment on arrive à peut-être les expliquer, les circonstancier, si c'est possible?
Ouais, tout est toujours possible, hein, c'est certain. Hein. On a eu des exemples dans des grandes banques qui maquillaient les bilans, hein. C'est pas voilà, il y a quelques années. Mais je pense que si on a des risques au départ, je pense qu'il faut les voir à plus long terme. Et vous parliez tantôt d'un investisseur éventuel. Qu'est-ce qu'il va voir? C'est qu'est-ce qu'il peut gagner à long terme? Un investisseur ne veut pas juste mettre de l'argent pour s'amuser. Il veut vraiment un rendement derrière.
Et il pense à une sortie potentielle.
Évidemment, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Plus la valeur de la société va monter, plus il va gagner. Donc, c'est voir les perspectives à long terme. Et pour ça, pour avoir des perspectives, il faut investir, il faut financer, il faut avoir de la trésorerie derrière. Il faut vraiment progresser, rentrer sur des marchés importants ou moins importants, en B2B ou B2C, tout dépend vraiment. C'est vraiment le projet de l'entrepreneur qui va faire qu'on va pouvoir délimiter le risque possible ou pas à long terme.
Et alors, cette situation peut être délicate. Vous êtes face à un entrepreneur ou une entrepreneuse en pleine croissance qui a des idées brillantes, des perspectives très ambitieuses, mais les chiffres sont un petit peu faiblards. Dans ces cas-là, c'est même pas forcément à titre professionnel, même à titre personnel. Comment vous voyez cette situation? Comment vous allez rechercher des points de prise pour essayer d'évoluer positivement, constructivement? Donc, on a des bonnes idées, un bon business qui paraîtrait voué à un certain succès, mais les chiffres sont encore faiblards. Comment on arrive à essayer d'aider ces chiffres?
Mais pour moi, j'investis.
Mais faiblard à l'heure actuelle ou faiblard dans le plan financier?
Plutôt dans l'heure actuelle, qui ferait déjà hésiter ou douter des perspectives, ou alors peut-être les perspectives qui sont déjà peut-être trop conservatrices ou peut-être même trop minimalistes, trop pessimistes.
Je pense qu'il faut tout simplement essayer de comprendre la situation, pourquoi les chiffres précédents ne répondent pas au plan initial. Parce que clairement, si ça n'a pas été le cas par le passé, on pourrait avoir des craintes aussi pour le développement futur de l'activité. Donc premièrement, c'est savoir, ça peut s'expliquer par un paquet de choses, hein, la crise du Covid ou autre. Il y a tellement d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte.
Les impondérables,
ouais. Ou même un divorce de l'administrateur, ça arrive encore d'avoir des moments, des baisses d'activité. Mais il faut impérativement qu'on puisse l'expliquer et comprendre ce qui s'est passé.
Et alors, à part auprès de vos services et de vos soins, où un entrepreneur ou une entrepreneuse peut trouver de l'aide, peut trouver de l'accompagnement sur ces questions très précises, très sophistiquées parfois?
Il y a pas mal de réseaux en Belgique, notamment je pense au réseau Entreprendre qui fait partie de toute la Belgique, où là il y a des comités qui accompagnent les gens et qui a un coach spécifique dans le domaine où la personne en a besoin. S'il a besoin d'un point de vue marketing, qu'il y aura quelqu'un qui a eu l'expérience, etc., qui peut vraiment pousser les gens. Je crois que c'est des accompagnements de 2 ans. et donc qui amène à pas mal de résultats parce que c'est tous des chefs d'entreprise qui sont là. Ce sont des choses qui sont intéressantes à faire. Il n'y a pas que le réseau Entreprendre, hein, il y en a d'autres, mais je pense que c'est un des plus gros en, en région francophone et bruxelloise en tout cas. Et ça vaut la peine d'y aller et d'écouter. Et voilà, c'est un tas de personnes qui sont que ce soit en comptabilité, en finance, etc., qui sont dans ces réseaux et qui peuvent aider à progresser l'entrepreneur.
Voilà, de mon point de vue, je rajouterais peut-être aussi l'avocat fiscaliste qui peut permettre de pouvoir amener peut-être au niveau légal des informations très précises. Et alors, on a évidemment l'expert comptable qui est là en accompagnement permanent avec l'entrepreneur, mais aussi impérativement le banquier qui peut, au-delà de simplement la demande de crédit, donner aussi quelques conseils parce qu'on a, avec les années, un peu plus d'expertise dans le domaine et on se rend très vite compte des pièges à éviter, que ce soit au niveau de la croissance et du manque de liquidité ou que ce soit pour une orientation un peu plus spécifique de tel ou tel type d'activité.
Il y a, je pense, aussi quelque chose d'important à dire, c'est qu'il y a aussi des aides en fait, pour créer sa société, ce qu'on appelle des chèques entreprises en région wallonne ou en région bruxelloise, qui permettent en fait de prendre 75% par la région de l'ensemble des frais pour créer la société, pour développer sa société, si on a un nouveau projet. Ce sont des choses qui sont importantes aussi à mettre en place et qui permettent de réduire certains frais, en tout cas à ce niveau-là, quel que soit d'un point de vue juridique ou comptable, qui permettent en fait à l'entrepreneur de limiter sa participation financière au développement de sa société.
Oui, ce sont des accompagnements et des soutiens appréciables dont il faut pas bouder ce genre d'aide. Pour essayer de synthétiser cette petite vingtaine de minutes qu'on vient de passer ensemble, pour que quelqu'un qui nous écouterait juste maintenant ait une chose à retenir, un grand conseil vis-à-vis du plan financier, quelle action concrète il peut engager dès maintenant?
L'action concrète, c'est de bien se faire accompagner par son expert comptable, mais surtout ne pas penser que le plan financier est établi uniquement pour faire plaisir aux banquiers, mais avant tout pour pouvoir être certain de la pérennité de l'activité, comprendre ce qui est intégré dans les chiffres du plan, savoir l'expliquer aux banquiers, même si l'expert comptable est présent. C'est toute l'importance, je pense, de pouvoir s'appuyer sur des éléments très concrets et réalistes qui permettront à terme la réussite aussi du projet.
S'approprier la réalité comptable de son entreprise.
Moi, je dirais simplement, continuez à développer, créez, mais faites-vous accompagner.
Ça semble être un très beau mot de conclusion. Merci à vous.
Merci. Merci.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. Suivez-nous, partagez ce podcast et laissez-nous vos commentaires. Rendez-vous sur crelan.be pour plus d'infos ou auprès de votre agent Crelan. À la prochaine fois.